Vortex et Rotative.
L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 pour un nouvel épisode de Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Les étoiles sont légion de Cameron Hurley, édité en France en 2018 dans la traduction de Gilles Goulet aux éditions Albin Michel Imaginaire et initialement publié aux États-Unis en 2017 sous le titre The Stars Are Legion. L'autrice Cameron Hurley est née en 1980 aux États-Unis. Elle est historienne de formation, spécialisée dans les mouvements de guerre et de résistance, notamment ceux d'Afrique du Sud, où elle a fait une partie de ses études. Aujourd'hui, elle vit à l'Ohio, où elle s'occupe d'une sorte de ferme urbaine. Malgré le fait qu'elle a reçu pas mal de prix pour son œuvre de SF et de fantasy, de ses 9 romans, 2 recueils d'essais et plusieurs collections de nouvelles, seul le roman « Les étoiles sont légion » a été traduit en français. À l'occasion de sa publication française, l'éditeur a aussi fait traduire l'essai « Nous avons toujours combattu » dans lequel Cameron Hurley revient sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, notamment en tant que combattante, et elle fait le lien entre autres avec la place et la représentation des femmes dans la SF et comment, dans sa propre écriture, elle a dû apprendre à éviter le piège de toujours raconter les femmes comme celles qui subissent. Sa volonté de raconter d'autres histoires, de rendre visibles d'autres manières d'être et d'agir, d'autres représentations que celles qu'on connaît déjà et qui sont souvent fausses ou du moins partielles, est certainement un des aspects les plus marquants de son œuvre profondément féministe. Pour celles et ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, je vous recommande vivement de faire un tour sur son site personnel. Vous trouverez le lien vers la version française de son essai dans la présentation de cette émission sur les sites de Radio Dragon et Campus Grenoble.
Les étoiles sont légion de Cameron Hurley est un roman de 400 pages qui se passe sur un immense vaisseau-monde, le Katazirna, qui fait partie de la Légion. La Légion, c'est un groupe de vaisseaux-monde qui gravite autour d'une nébuleuse. Ces vaisseaux sont parfois en guerre les uns avec les autres, comme le Katazirna et le Bavaja. Les vaisseaux de la Légion sont entièrement organiques, ils se nourrissent de ce qui passe à leur portée ou de ce qui est recyclé en leur sein. Mais les vaisseaux de la Légion sont malades. Ils se dégradent, atteints de sortes de cancers. Les dirigeantes du Katazirna, où se passe la majorité de l'histoire, veulent s'emparer d'un mystérieux vaisseau, la Mokshi, dans l'espoir d'avoir de quoi soigner et réparer leur monde. Au cours du roman, on suit l'histoire de Zan et de Jade, la fille de la seigneur Katazirna. Zan est une guerrière qui mène les assauts contre la Mokshi. À chaque fois, elle est la seule survivante, la seule à pouvoir entrer dans la Mokshi, et à en ressortir. Mais à chaque fois, elle en ressort amnésique. Ainsi, le livre commence à son retour. Jade s'occupe de Zan, qui est blessée et a perdu la mémoire. L'histoire est une alternance de chapitres racontés du point de vue de Zan et de Jade. Zan y mène une quête pour retrouver sa mémoire, son histoire et son identité. Jade construit stratégie sur stratégie pour essayer de sauver son monde, le Katazirna, et va jusqu'à séduire la terrible Razida, seigneur des Bavaja. Zan et Jade sont-elles vraiment sœurs, comme le lui affirme celle-ci? Pourquoi la Mokshi accepte Zan et la recrache-t-elle amnésique? Comment sauver le Katazirna et plus largement la Légion des cancers qui rongent les mondes? Cette histoire est presque comme une épopée et enchaîne des combats, des tentatives stratégiques et des sortes de voyages d'aventure. Ah oui, et on peut préciser que dans cet univers, il n'y a que des femmes, et les hommes ne manquent pas. La question ne se pose même pas en fait, c'est juste comme ça, il n'y a pas d'hommes.
Zan. Je me rappelle avoir jeté une enfant. C'est le seul souvenir dont je sais avec certitude qu'il m'appartient. Le reste de ma mémoire se réduit à une obscurité sordide. Je n'ai donc rien d'autre que ce qu'on m'a dit être vrai. Je m'appelle Zan, j'ai commandé un jour une grande armée. Ma mission consistait à détruire un monde qui n'existe pas. On me dit que mon armée a été dispersée, ou dévorée, ou explosée en 1000 fragments brillants, et que j'ai disparu. Je ne sais pas pourquoi je voudrais diriger une armée, surtout si elle va connaître la défaite, mais on me dit que je me suis acharné toute ma vie à obtenir le grade et le degré de compétence auquel j'étais arrivé. Et quand je suis revenu, recraché par le monde ou m'en étant arraché de ma propre volonté, je suis revenu bizarre. Ce que signifie « bizarre » en l'occurrence, je n'en ai pas la moindre idée pour le moment. Je sais seulement que mon amnésie a la même origine.
Jade. La première fois que Zan est revenu amnésique de la Mokshi, il m'a semblé que c'était une bénédiction de la déesse de la guerre. Nous nous étions fait trop de choses horribles à ce moment-là, et j'avais peur qu'on n'arrive jamais au bout de tout ce que nous avions entrepris. Elle a toujours été plus émotive que moi, aussi est-ce un miracle qu'elle ait accompli tant de choses avant qu'on commence à faire équipe. En vérité, je n'aurais jamais cru avoir à jouer ce jeu aussi longtemps. Mais ma mère, Anat, seigneur Katazirna, est têtue comme tous les Bajava, qui nous ont fait la guerre depuis si longtemps qu'à mon avis elles ne savent pas comment s'arrêter, et Anat n'a aucune chance de pouvoir les arrêter seule. Zan et moi croyons avoir un moyen de mettre fin à la guerre et de sauver Katazirna, et peut-être la Légion avec. Mais certaines personnes ne veulent pas qu'on les sauve.
Avant même de commencer à lire l'histoire, il y a cette dédicace, pour toutes les femmes brutales. Et presque, elle exprime à elle seule déjà ce qui me fascine autant dans ce livre. Cette dédicace valorise la brutalité chez les femmes, donc quelque chose qui n'est pas censé faire partie de ce que peuvent être les femmes. Les femmes brutales, ça résonne avec puissance et liberté d'agir. J'ai eu tout d'abord du mal à mettre le doigt dessus, à saisir ce qui me touche autant là-dedans, parce que la brutalité, ça rime aussi avec violence, et franchement, je ne rêve pas particulièrement à un monde violent. Ça existe déjà bien assez. Alors, j'ai cherché dans l'étymologie du mot « brut », dont « brutal » est un dérivé, et si on met de côté le sens stupide, primitif, on tombe sur « ce qui n'est pas façonné par l'humain », donc ici par la société humaine, par les normes sociales. « Brutal » se dit aussi de ce qui est inattendu, imprévisible. La liberté de ne pas être ce qui est attendu chez les femmes, voilà ce qui est puissant. Dans Les étoiles sont légion, la brutalité des femmes apparaît entre autres dans des scènes de combat, où elles ne se montrent vraiment pas tendres.
Anat nous reconduit à Katazirna en se comportant comme l'ivrogne qu'elle est. Elle se lance dans de grands tonneaux avec son véhicule, slalom entre les jumelles, nous adresse des signes obscènes. Elle est d'excellente humeur. Je n'ai en tout cas aucun souvenir de l'avoir jamais vue aussi heureuse, mais c'est peut-être parce que j'en ai très peu. En ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir avalé une pierre noire extrêmement dure qui pèse sur ma poitrine. Peut-être la Mokshi est-elle capable de me rendre la mémoire qu'elle m'a prise, mais je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Si ma mémoire rend raisonnable ces personnes et cette vie insensée, très peu pour moi. Je ne veux pas que ces personnes, ces décisions, soient normales. Anat fonce au-dessus puis à travers un grand anneau de détritus qui tourne autour de restes grêlés d'un monde aux limites du territoire Katazirna, un monde mort et décortiqué depuis longtemps. J'aperçois des reflets métalliques au centre des enchevêtrements de peaux décomposées, sans doute des plaques trop grandes pour être découpées et récupérées. Le centre de ce monde en ruine laisse voir l'éclat de l'œil du soleil situé au cœur de la Légion. Je plisse les paupières, lève la main pour ne pas être ébloui tout en me demandant si Anat va foncer à travers ces débris-là aussi, en espérant presque qu'elle en percute un assez fort pour s'assommer. Mais alors que nous contournons ses restes dans le sillage de son combustible brûlé, son véhicule part soudain en tête à queue. Une grande masse de barbelés jaillit du flanc de celui-ci et la désarçonne. Un des véhicules de la sécurité se fait ensuite toucher, une fois, deux, trois. Il dégringole dans ma direction. Je n'ai pas le temps de réagir. Il me rentre dedans. L'impact est si violent que je suis éjectée loin de mon véhicule. Je ne hurle pas, mais je lâche un hoquet qui résonne tout proche dans ma combinaison. Nous ne portons aucun appareil de communication. Nous dérivons seuls et dans le silence. Isolée du groupe, je vois les attaquantes jaillir de derrière le monde en ruine. Ce ne sont pas 10 ou 20, mais plus de 60 véhicules équipés de canons à céphalopodes. Les gros projectiles à tentacules frappent les véhicules des Katazirna, nous éliminent comme on écrase des insectes.
Mais dans l'univers de Les Étoiles sont Légion, la brutalité n'est pas que celle des combats. Toutes les femmes sont brutales. Toutes les protagonistes, aussi différentes qu'elles soient les unes des autres, sont dotées d'une forme de puissance qui les pousse en avant, que ce soit la prise d'initiative, l'intelligence et le pouvoir politique, la force physique ou celle de la volonté, la maîtrise du combat ou l'endurance. Et franchement, aucune d'elles ne fait particulièrement dans l'empathie ou la douceur. Ce qui ne veut pas dire que l'amour, la tendresse ou le soin n'existent pas, tout comme les relations entre certaines sont fortement marquées par le désir, la séduction et l'érotisme. Mais ce qui anime les personnages en premier lieu, ce sont leurs objectifs personnels et non l'attention aux autres. Toutes, elles semblent savoir ce qu'elles veulent, elles y vont, même Zan qui, sans sa mémoire, est quand même en doute sur à qui faire confiance. Pourtant, elle n'est pas hésitante, elle établit un plan d'action et elle le suit. Les personnages se plantent parfois, mais aucune n'est passive.
Une fois reposés, nous entamons la montée le long du cours d'eau. Quand nous débouchons dans une large plaine inondée qui s'écoule dans de nombreuses directions, je suggère que nous suivions le lit principal de la rivière. Elle va toujours couler vers le bas, non ? Dis-je, vers le centre du monde. Donc rien de plus logique qu'on la suive dans l'autre direction, vers son origine. L'endroit grouille d'insectes dont les morsures causent des démangeaisons irrésistibles. Des cloques se forment sur ma peau, et quand elles éclatent, de petites larves en sortent en se tortillant. Ce qui ne devrait pas me déranger après tout ce que j'ai vu, mais me pèse beaucoup. C'est Casimir qui s'arrête, à un moment du deuxième cycle, pour se mettre à hurler longuement. Non de peur, mais de frustration. Je fais comme elle, les pieds enfoncés dans la plaine spongieuse. Dasmouni nous imite, puis Aran Kadash, et de longues minutes durant, nous voilà, un groupe de 4 femmes, en train de hurler à gorge déployée au milieu d'un marais bourdonnant d'insectes. Nous ne cessons qu'une fois que nous en avons plein la bouche. Et nous repartons.
Je les trouve tellement puissantes, ces 4 femmes qui hurlent. Et ce côté brut, mais pas simpliste pour autant, m'a bien fait triper tout au long du livre. Il se retrouve d'ailleurs aussi dans l'écriture, le langage étant parfois assez cru, un peu rêche, pas vraiment lissé. Et ça marche très bien avec l'imaginaire déployé ici.
Les immenses vaisseaux-mondes de la Légion sont des grandes sphères avec des tentacules et d'autres organismes qui vivent à l'intérieur. Les femmes, bien sûr, mais aussi des animaux, des plantes, des champignons. Et si on change d'échelle, ces vaisseaux-mondes me font un peu penser à des micro-organismes, comme des virus ou des bactéries, avec leur forme qui évolue dans l'espace. Mais si on les regarde encore à une autre échelle, les femmes qui y vivent sont minuscules et font comme partie d'un organisme géant. Au même titre que les plantes, les animaux, les champignons, elles évoluent dans le monde et se nourrissent de lui, tout comme le monde absorbe leurs sécrétions et quand elles meurent, le monde les recycle et se nourrit de leur corps, les phagocyte d'une certaine manière. Alors le monde est comme un organisme et les femmes qui y vivent ne seraient guère plus qu'une partie de son microbiote. Et ça m'a évoqué les organismes qui ne sont pas vraiment autonomes et dépendent de milliers d'autres formes de vie qui fonctionnent en symbiose. Et plusieurs fois dans le roman, il est évoqué que le monde et les êtres qui le peuplent ne forment en fait qu'un seul organisme et qui, elles, sont toutes de la même matière. Tous les outils des humains sont donc organiques, faits d'os ou de peau. La lumière n'est pas produite technologiquement, mais elle vient de la bioluminescence de plantes, d'insectes ou de champignons. Il n'y a pas vraiment de technologie construite à partir de métal ou de matières premières minérales. Les armes projettent par exemple des céphalopodes venimeux. Et cette interdépendance est poussée assez loin, puisque le temps est mesuré en fonction du rythme du monde. Il est calqué sur le rythme cardiaque du vaisseau. Alors, ça laisse imaginer que si le rythme cardiaque du monde change, alors ça modifie aussi le rythme de la vie de ses habitantes. Dans la même idée, les organismes du monde peuvent en guérir d'autres. Des vers peuvent par exemple servir à soigner une blessure, ou des organes peuvent être échangés. À l'échelle du monde, comme à l'échelle des individus, cet univers questionne finalement pas mal la notion d'individu indépendant et indivisible, que ce soit au niveau de l'organisme monde ou au niveau des personnes et de leurs interactions avec leur environnement. Enfin, si cet environnement n'est pas en réalité une prolongation de leur propre corps.
Vous auriez voulu prendre le raccourci ? Je vais vous raconter une histoire sur quelqu'un qui l'a pris. Elle commence avec « Arrête, dis-je ». Une femme qui portait son utérus en chapeau parce que « Attends, qui faisait quoi ?» Elle portait son utérus sur la tête, dit Casimir en tapotant sa chevelure nattée en couronne. Mais ce n'est pas important, ça sert juste à l'identifier, tu comprends ? Bref, comme ça lui donnait l'air plus grande et plus imposante, elle a pris le raccourci en pensant que « c'est une histoire vraie ». Elle fait la moue. Je ne partage que des histoires vraies. Mais on ne peut pas ôter son utérus comme ça. Bien sûr que si, les échanges d'utérus sont très courants. Ah bon ? Elle croque dans un champignon gros comme un poing. Chaque fois que je redoute qu'on se trouve à court de nourriture, je la vois en chercher dans la nature. Je n'aurais pas cru qu'il y en avait tant par ici, mais c'est parce que je ne sais plus faire la différence entre nourriture et déchets. Nous donnons toute naissance à des trucs différents, explique Casimir. Parfois, ce qu'une personne veut n'est pas ce que veut une autre. Mais tu ne décides pas à quoi tu donnes naissance. La divinité décide. Mais comme pour tout, tu peux changer ton destin. Tu peux échanger ton utérus contre celui d'une membre de ta famille, si tu as une bonne chirurgienne. Je repense à cette longue cicatrice sur mon ventre. On peut l'enlever entièrement ? Ce n'est pas recommandé. Tu ne sais donc rien ? Vous êtes vraiment complètement cinglées toutes les deux. Chez nous, on ne fait rien de tel, intervient Arankadash. C'est une insulte à la mère qui nous a donné naissance. Oui, bon, c'est différent pour nous, dit Casimir. Tu n'as pas peur de mettre la mère en colère ? Demande Arankadash. Je ne sais même pas ce que c'est, donc non. Elle gobe le reste du champignon. Vous devriez goûter, j'en ai d'autres. Et tu ne risques pas une infection ou je ne sais quoi ? Demandai-je. En mangeant des champignons ? En découpant des corps. Pourquoi ? Nous sommes faits de la même matière, le monde et nous toutes. Et rien ne pourrit vraiment ici, c'est juste recyclé. Le monde le mange, et nous mange aussi. Lui et nous sommes une seule chose. Tu ne m'as donc jamais écouté ? Ces femmes que nous avons dans la salle des ingénieurs, elles n'attrapent pas d'infection quand on fait des expériences sur elles. Ta jambe non plus, tu as remarqué ? On prélève une poignée de chair et tu marches aussi bien qu'avant. Il faut juste la soigner avec la bonne matière. Ton corps cicatrise le reste. Il se recoue tout seul, ou presque, chez la plupart d'entre nous l'humain.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 avec l'émission Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente le roman Les étoiles sont légion de Cameron Hurley.
Accroupie à 40 pas, Arankadash s'appuie lourdement à un gros cristal. Elle est en nage. Un instant, je crois qu'elle défèque, mais son grognement se transforme en long gémissement. Ça va, Arankadash ? Elle me fait signe de la laisser tranquille. Je m'approche quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Elle secoue la tête. Respire en rythme. J'accouche, souffle-t-elle. J'essaye de venir encore plus près, mais elle me décoche un regard assassin. Laisse-moi. Elle grince des dents et pousse. Je ne vois rien sous elle, ses vêtements sont trop longs, mais je m'interroge avec une certaine inquiétude sur ce à quoi elle donne naissance. Cela va-t-il s'écraser sur les cristaux ? Je lui apporte de l'eau. Elle boit et me repousse de nouveau. Entre-temps, Casimir et Dasmouni se sont réveillés. Ni l'une ni l'autre ne l'approche. Elle reste assise à manger. Casimir inscrit je ne sais quoi sur un livre en parchemin. Aran Kadash pousse de nouveau. J'entends un objet de chair glisser d'elle sur le sol. Elle lâche une longue respiration qui se transforme en un autre gémissement, puis s'appuie au cristal dans son dos. Elle tend la main vers moi, je tends la mienne. Elle se soulève, passe les doigts sous ses vêtements. Je me crispe au souvenir des bêtes frétillantes aux grandes dents auxquelles Dasmouni a donné naissance. Je suis déjà horrifiée par ce qu'elle pourrait avoir créé. Qu'est-ce que le vaisseau lui a donné à porter ? Aran Kadash extrait une masse frémissante de chair visqueuse. Je crois un instant qu'il s'agit de son placenta, mais non. C'est une roue dentée, une sorte d'organe rond à l'air mécanique, destiné à être fixé à un véhicule. Son centre est rainuré et évidé. Il n'y a ni yeux ni visage. Je m'attends à ce qu'Aran Kadash le fourre dans son sac ou le jette au milieu des cristaux, comme le déchet qu'il me semble être. Mais elle n'en fait rien. Elle se laisse tomber par terre en le serrant dans ses bras. Elle roucoule des choses à ce truc luisant de mucus, comme on fait à une enfant.
L'univers matériel du roman repose sur un système de gestation et d'enfantement. Toutes les femmes tombent enceintes sans qu'une fécondation ne semble nécessaire. Ou du moins, elle n'est pas évoquée ni explicitée. Elles peuvent donner naissance autant à des bébés qu'à des sortes d'objets organiques, voire à un monde entier. C'est assez fonctionnel. Il n'est pas question de désir d'enfant. Les grossesses semblent arriver au rythme des besoins du monde, accueillies avec plus ou moins de contentement, désirées parfois, rejetées parfois. La maternité et l'enfantement ne sont pas liés à la douceur et le soin en particulier, même si fournir des pièces manquantes participe à régénérer le monde. Les personnages du livre n'en savent pas forcément plus sur comment tout ça fonctionne. Selon les niveaux du monde où elles vivent, il y a différents narratifs, plus ou moins spirituels ou rationnels, qui servent d'explication, acceptés par certaines, questionnés par d'autres.
« Je suis enceinte, » dit Casimir. « J'espérais que ça pourrait attendre encore un peu, mais il faut croire que non. »« Oh !» J'enfonce mes mains dans mes poches. « Qu'est-ce que tu... Je peux te demander ce que tu portes ?» Ce n'est que la troisième fois. En général, on tombe enceinte quand le monde a besoin de quelque chose, j'imagine. C'est un truc organique, comme pour Aran Kadash, sauf qu'il grossit beaucoup plus. Le dernier, on l'a gardé un certain temps pour faire des expériences dessus. Ils ne sont pas vivants, pas vraiment. Ils sont une partie du monde, je crois. À mon avis, ils remplacent les pièces qui s'usent. Tu ne devrais pas toujours les avoir dans ce cas ? Quoi ? Elle cesse de lancer des pierres. T'es dingue ? Je ne me donne pas à une divinité, à un être plus grand que moi. Ce que je suis m'appartient à moi et à personne d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Peut-être que ce don accouche d'Asmouni à son utilité reconnaît-elle à contre-cœur. Et peut-être qu'Aran Kadash a tellement envie d'une enfant qu'elle essaierait d'allaiter cette chose. Mais je ne suis pas comme elle. Je vais m'en débarrasser, voilà tout. Tu peux ? Tu peux faire tout ce que tu veux, répond-elle. C'est ta chair, tu sais. Si un cancer me rongeait le bras, tu ne me dirais pas que je ne peux pas me l'amputer. Mais ces choses ne ressemblent pas à des cancers. Ah bon ? Comment sait-on vraiment ce qu'elles sont ou ce à quoi nous servons ? Nous croyons ce qu'on nous a raconté sans le remettre en cause. Mais chaque niveau est le même. Toutes les femmes rationalisent en disant que c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas mais qui est nécessaire. Ce que je refuse. Personne d'autre que moi n'a la responsabilité de mon destin. Elle montre mon ventre du doigt. De toute évidence, tu le sais, ou tu l'as su par le passé.
Ce traitement de la grossesse et de l'enfantement est vraiment fascinant. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement d'habitude, mais cette manière de Cameron Hurley de l'investir d'un imaginaire complètement différent, qui n'est pas sans rappeler la question de la brutalité d'ailleurs, crée un tel décalage avec tout ce à quoi l'idée de maternité est liée dans notre société, que ça m'a extrêmement intriguée. Et là encore, j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est comme si elle proposait un rapport émotionnel et sensible à la gestation. Le terme de maternité ne semble pas très approprié ici, qui est complètement différent de ce qu'on entend habituellement. En plus, qu'il n'y ait que des femmes, ça fait que la gestation n'est pas réservée à un groupe particulier de la société. Tout le monde peut enfanter, les guerrières ou les ingénieurs, comme les mutantes. Ça semble donc complètement absurde de penser que les personnes capables d'enfanter auraient des dispositions psychiques ou émotionnelles particulières. Ça ne sert pas de critère pour construire des catégories sociales comme on le connaît malheureusement trop bien dans notre réalité. Que ce soit l'idée d'un soi-disant instinct maternel, la quasi-obligation de désirer d'avoir un enfant, ou l'idée que les femmes seraient plus aptes aux soins des enfants ou autres personnes dépendantes.
Un des trucs de ce roman qui m'a fait assez écho, c'est la question de la perte du savoir. Le fait que ce qui nous paraît évident dans le présent sera peut-être complètement oublié dans 50 ans. Que savoir comment fonctionne un vaisseau spatial ou une centrale nucléaire maintenant, ça ne veut pas dire savoir les faire fonctionner, les entretenir ou les démanteler dans quelques décennies ou quelques millénaires. En fait, Cameron Hurley met en parallèle la perte du savoir à un niveau individuel avec l'amnésie de Zan et la perte du savoir collectif autour du vaisseau, et ça c'est super intéressant. Par contre, un des trucs qu'on a trouvé un peu chiant dans le roman, c'est tout un truc autour de la stratégie politicienne, de la manipulation et du mensonge, et ce sont des trucs qui sont plutôt portés par le personnage de Jaïd, qui tiennent en haleine à des moments, mais qui, sur la durée du livre, deviennent un peu lassants quand même.
Voilà, pour résumer, on peut dire que le roman Les étoiles sont légion nous a marqués parce qu'il propose des manières vraiment pas habituelles de raconter ce que sont des femmes, comment on est interdépendante entre nous et le monde qui nous entoure, comment on forme un monde, comment il est important de se saisir de nos histoires et de nos destins. Dans son essai « Nous avons toujours combattu », Cameron Hurley écrit ceci.
Lorsqu'on fait pourtant l'effort d'imaginer notre monde comme une ruche bourdonnante d'individus en tout genre et en tout sexe, compliqués, uniques, et d'histoires passionnantes qui n'attendent pas d'être racontées, il devient impossible de les ignorer. Nous n'avons plus des femmes et du bétail et des esclaves, mais des personnes agissant sur leurs propres histoires et destins. Et sur les nôtres. Lorsque nous choisissons d'écrire quelque chose, ce n'est pas juste une histoire individuelle que nous racontons. C'est une histoire collective, une histoire individuelle est notre histoire. Nous existons comme un ensemble. L'histoire s'est déroulée ici, elle nous est commune. Elle est crade, complexe, souvent tragique autant que terrifiante. En ignorer toute une moitié, prétendre qu'il n'y a jamais eu qu'une façon de vivre en tant que femme, seulement en relation avec les hommes qui les entourent, ce n'est pas qu'un acte d'invisibilisation isolé, mais une invisibilisation politique. Ne peupler un monde que d'hommes, avec seulement des héros masculins, des personnages masculins et leurs femmes, bétail et esclaves, est un acte politique. Vous choisissez alors consciemment d'invisibiliser la moitié du monde existant. En tant qu'écrivaine, en tant que conteur, nous pouvons faire des choix bien plus intéressants.
Et c'est sûr que dans ce roman, Cameron Hurley a fait des choix extrêmement intéressants. Alors, malgré notre enthousiasme, ça vaut probablement le coup d'ajouter un petit avertissement. Si vous avez écouté les extraits, vous avez déjà pu vous rendre compte que l'univers qu'elle raconte peut susciter un certain dégoût. Donc si la description d'une plaie grouillante de larves ou d'un monde tout en muqueuse vous insupporte absolument, alors ce roman n'est peut-être pas pour vous.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Vortex et Rotative, où on vous a présenté le roman « Les étoiles sont légion » de Cameron Hurley, publié en France en 2018, aux éditions Albin Michel Imaginaire.
L'émission est montée avec des bouts de musique de l'artiste Ellen Allen.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.